Bon réveil avec Bernard Poirette. L'actualité, les Naïcs Monnier, Bernard Poirette.
Le premier journal, donc les Naïcs, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de ce journal, jour de départ, donc en vacances, pour ce qu'on appelle les juilletistes.
Qui vont devoir affronter les bouchons avant d'atteindre leur lieu de villégiature. Les professionnels du tourisme sont dans les starting blocks. Plus de 70 femmes tuées par un conjoint ou un ex-conjoint depuis le début de l'année. Le chiffre est alarmant. Un rassemblement est prévu aujourd'hui pour demander des gages au gouvernement. Et puis le paradis des manchots au patrimoine mondial de l'UNESCO, les îles Kerguelen et du Crozet viennent d'être classées.
Europe 1. Pour beaucoup ce matin, c'est le moment du départ en vacances.
Et peut-être que vous êtes déjà en train de préparer les casse-croûtes et de quoi vous abreuver avant de prendre la route. Les juilletistes s'apprêtent à débarquer sur les plages, dans les hôtels ou les campings. La saison est lancée et les professionnels peaufinent chaque détail pour accueillir les vacanciers, comme dans ce camping de Martigues où s'est rendu Stéphane Frangy.
Au volant de sa voiturette de golf, Bruno, le responsable technique, procède aux réparations de dernière minute.
Ah là, on a un gros boulot à faire. On a la pompe de la piscine cassée, donc on change la pompe numéro 2. Avec la chaleur qu'il fait, l'eau tourne vite. Et donc, c'est un petit peu un contre-la-montre qu'on a à faire là.
Pendant ce temps, Antoinette de l'équipe de nettoyage finit de préparer les derniers mobilhomes.
Alors, on commence par un général de salle de bain. Bon, on fait les propretés, les poussières, les sols. Vérifier que toute la vaisselle soit là, que le nombre d'assiettes, que tout marche, le gaz. On met un peu de parfum, du produit à fourmis et on passe au suivant. Trois quarts d'heure, une heure, par mobilhome, on les passe. Ça fait depuis lundi qu'on prépare les arrivées pour ce week-end.
Et jusqu'au bar-restaurant, tout est fin prêt, pas d'improvisation possible pour Rosie, la propriétaire du camping Le Mas.
D'un coup, d'un seul, on se retrouve avec un petit village sur les bras, alors qu'on était juste un petit hameau. D'un coup, ça se remplit, la piscine, le bar, le restaurant, ça frétille par la chaleur. C'est le coup d'envoi, le coup de bonheur, presque.
Et elle a d'ailleurs procédé à une vingtaine d'embauches supplémentaires pour faire face à cette première vague d'arrivée. Martigues, Stéphane Frangy, Europe 1.
Mais avant de se prélasser, il faut affronter les bouchons. Bison futé, voie rouge en Ile-de-France, orange sur l'ensemble du pays. Dans les gares, ce sont 1,5 million de voyageurs qui sont attendus ce week-end jusqu'à demain.
Ce sont les vacances aussi pour les jeunes bacheliers.
Du moins pour les lauréats, les résultats sont tombés. Hier, 77,7% de réussite au bac. C'est 1,1 point de moins que l'année dernière avant les rattrapages. Résultats qui sont provisoires puisque 40 000 candidats n'ont pas eu toutes leurs notes hier. Par ailleurs, 4 personnes ont été mises en examen hier soir dans l'affaire des fuites des sujets de maths. Il s'agit de 2 candidats soupçonnés d'avoir acheté les sujets, mais également un surveillant suspecté de les avoir vendus, ainsi que sa compagne.
Ce sont les peines maximales en cas de harcèlement moral. 75 000 euros ont été requis contre France Télécom.
Et un an ferme aussi contre Didier Lombard, l'ex-dirigeant. 10 ans après, plusieurs suicides de salariés. L'accusation a estimé que l'ancienne gouvernance avait mis en place une politique d'entreprise de déstabilisation des employés. Cela avait conduit à 19 suicides et plusieurs cas de dépression. C'est un réquisitoire qui fait du bien aux victimes comme Jean Perrin. Son frère Robert s'est suicidé en 2008.
On ne peut être que satisfait par rapport aux mots qui ont été utilisés par la procureure. C'est ce qu'on attendait, nous, les parties civiles. Et elle les a dit, les mots, vous êtes des harceleurs. Vous nous avez fait souffrir pendant 5 années, de 2005 à 2010. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez et que vous regrettiez, ce qui ne sera pas le cas effectivement parce qu'ils sont dans le déni, de début jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est très important que la procureure ait ces mots forts. C'est ça qui était important pour les mettre devant leur responsabilité et de dire arrêtez de dire « on ». C'est vous, c'est pas on, c'est les autres, c'est vous qui avez dirigé le plan Menex et le plan Acte. Et il a terminé en beauté en les traitant de harceleurs en tant que métier. Leur métier, c'est de lui harcèlement. Voilà, c'est ça qui était très fort. Ça nous a fait du bien.
Propos recueillis par Chloé Triomphe, décision du tribunal jeudi prochain.
Un chiffre très alarmant aussi ce matin dans l'actualité. Depuis le début de l'année, plus de 70 femmes, au moins 70, mais selon certaines sources jusqu'à 73, sont mortes, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.
Et ce qui est très inquiétant, c'est que ce chiffre est en constante augmentation face au nombre de ces femmes tuées. Le gouvernement doit réagir. C'est pour cela qu'un rassemblement se tient cet après-midi à Paris, à l'appel de proches de familles de victimes. Avec ce message, aucune femme victime de violence ne doit rester sans réponse. Pauline Jacquot.
Elle était allée au commissariat signaler son ancien compagnon violent plus de 10 fois. Elle a porté plainte et déposé une main courante, mais la police n'a pas réagi, raconte Noël Agossa, l'oncle de cette jeune femme tuée après 9 mois de violence.
Ce garçon-là était connu des services de police, donc lorsque son nom apparaît dans une plainte, ça doit aussi alarmer aussi la police. On dit souvent briser le silence des femmes qui sont violentées. Mais on ne s'adresse pas à la police qui doit aussi briser le silence. Pourquoi le travail est mal fait ? Il y a des choses qui ne vont pas du tout.
Le collectif de familles de victimes qu'il a créé exige des actions immédiates, le bracelet électronique pour les hommes violents et leur éloignement systématique du foyer familial. Il faut aussi que les médecins, policiers et magistrats travaillent ensemble, souligne Mathilde Delespine de la Maison des femmes de Saint-Denis en région parisienne.
Il est indispensable que les professionnels de santé ou du travail social rédigent des attestations professionnelles ou des certificats médicaux avec tout ce qu'ils auront recueilli de la parole de la victime pour que ça donne des éléments matériels aux services de police qui ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé, ce qui se passera, si on ne leur donne pas les éléments matériels.
Les associations demandent aussi la mise en place d'un plan de détection des violences à l'hôpital et l'ouverture de 200 places de plus dans les centres d'accueil pour héberger les femmes victimes de violences.
Pauline Jacquot pour Europe 1, le rendez-vous c'est cet après-midi à Paris, 17h, place de la République.
Et auparavant, ce matin sur Europe 1, 8h15, Eva Darlan sera avec nous, la comédienne mène la lutte justement contre ces violences conjugales absolument inadmissibles. Elle a lancé une grande pétition en milieu de semaine. C'est un véritable serpent de mer. Il s'agit du report, encore une fois, de l'EPR de Flamanville.
Ce réacteur nucléaire de troisième génération devait être mis en service en 2012. On avance désormais la date de 2022, mais Bruno Le Maire veut comprendre ce qui s'est passé. Le ministre de l'Économie a donc commandé un audit.
Ces incidents à répétition ne sont pas acceptables et ne sont pas compréhensibles. Ils ne sont pas acceptables de la part d'une filière nucléaire qui est un fleuron français. Et pour qu'un fleuron français reste un fleuron, il doit s'imposer un niveau d'excellence qui doit être au standard les meilleurs de la planète. Donc moi, je souhaite savoir ce qui s'est passé. Je souhaite savoir pourquoi est-ce qu'on a retenu cette technologie EPR, pourquoi est-ce qu'on rencontre tellement de difficultés, pourquoi est-ce qu'il y a eu une malfaçon. Donc j'ai demandé à Jean-Martin Folz, qui est un grand industriel, de conduire une audite totalement indépendante sur cette filière EPR pour comprendre pourquoi certains choix techniques n'ont pas forcément été les bons, comment nous en sommes arrivés là et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces incidents, de façon à ce que EDF puisse y remédier dans les meilleurs délais. Mais nous devons, sur cette filière d'excellence française, la transparence totale aux Français.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.
Nous partons en Angleterre dans un instant pour la suite de ce journal. Il y a un baptême royal cet après-midi, mais un baptême royal en toute discrétion, dirais-je. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h08. Suite de l'actu avec Lénaïque Monnier et Bernard Poiretz.
Lénaïque, ça ne vous a pas échappé, le petit prince Archie sera baptisé aujourd'hui. Mais ce sera une cérémonie très privée et très protégée. Et ça, ça agace beaucoup les Anglais.
Ça fait grincer les dents des sujets de sa gracieuse majesté, habitués à vivre au rythme des mariages et des naissances de la famille royale. Sauf que Meghan et Harry, les parents, eux, ont tout verrouillé. Rien ne va filtrer, pas même l'identité des parrains et marraines. Les Anglais sont exsénés. Anaïs Cordoba.
2 mois après la naissance du petit Archie, aucune photo de son visage en entier n'a été révélée. Comme beaucoup de Britanniques, Georgette espérait enfin le voir à l'occasion de son baptême, mais c'est la déception. Selon le souhait de Meghan et Harry, la cérémonie se déroule à l'abri des regards.
Ils font partie de la famille royale et je suis désolée, mais être vue, ça fait partie du boulot. Vous devez vous montrer au public.
Au Royaume-Uni, la polémique enfle, surtout depuis la révélation du coût de la rénovation de la nouvelle résidence du couple. 2,7 millions d'euros facturés aux contribuables. Mandy, habitante de Windsor.
Ils ne nous montrent aucune photo, il devrait y avoir du donnant-donnant. Nous, on doit payer pour eux, on n'a pas le choix. C'est un bébé, on n'a pas besoin qu'il soit exhibé à la foule, mais ce serait sympa d'avoir une belle petite photo.
Face au château, John, fan inconditionnel de la monarchie, venu spécialement pour le baptême, appelle à la patience.
Après n'avoir eu aucune intimité depuis qu'il est bébé, Harry veut protéger sa vie privée et Meghan aussi. C'était une actrice, elle est américaine. Ça prend du temps de s'adapter à la vie de la famille royale.
Seulement 25 invités, famille et amis proches, assisteront à la cérémonie de baptême ce midi. Windsor, Anaïs Cordoba, Europe 1.
permet de vous poser une colle, si vous le voulez bien. Savez-vous où on trouve sur cette planète la plus grosse population de manchots royaux ?
Oui, parce que j'ai un peu étudié la question ce matin pour le travail.
Alors, ce sont dans les terres et mers australes françaises. Et ces terres et mers australes françaises viennent d'être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, on parle de l'archipel Crozet, des îles Kerguelen, tout au sud de l'océan Indien, pour bien vous le situer, où depuis des années, les scientifiques examinent et protègent les phoques des colonies d'oiseaux isolées sur ce gros rocher de 673 000 m². Écoutez Yvon Lemao, biologiste, membre de l'Académie des sciences.
Je me réjouis de ce classement et pour nous, biologistes, qui travaillons précisément sur la biodiversité et sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité, ces îles sont exceptionnelles. Ça fait un tout entre la mer et les îles puisque toute la vie à terre vient de la mer, avec des millions d'oiseaux de mer et notamment les deux tiers de la population mondiale de manchots royaux, des albatros, des pétrels. La vie c'est presque la même émotion que celle qu'a eue Darwin en découvrant les Galapagos que nous avons chaque fois que nous nous rendons dans ces territoires.
Et propos recueillis par Jean-Jacques Herry, autre site promu hier par l'UNESCO, la cité antique de Babylone, là on est en Irak.
Il est 6h11 sur Europe 1.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Eh oui, ce n'est pas fini. Hein. À Lyon, demain, c'est la finale du mondial féminin entre les États-Unis et les Pays-Bas.
Pas vraiment de surprise concernant la présence des Américaines tenantes du titre et en face des Néerlandaises qui peuvent tirer leur épingle du jeu, tant elles sont soutenues dans ce mondial par leurs supporters qui affluent dans les stades. Et ce sera encore le cas demain au Parc Coëlle. Cyril de la Morinerie.
Les Hollandaises ont réalisé le rêve des Françaises, atteindre la finale de la Coupe du Monde. Ce qui est remarquable, c'est surtout la vitesse à laquelle s'est développé le foot féminin aux Pays-Bas. Ce n'est que la deuxième participation de l'équipe orange à une Coupe du Monde. Les Hollandaises se sont révélées il y a 2 ans avec un titre européen. Depuis, l'équipe a peu changé. La stabilité, c'est le secret de leur réussite, explique l'attaquante Renate Johnson.
C'est un processus d'équipe. On joue depuis 3 ans ensemble et on joue de mieux en mieux. Je pense qu'on est une vraie équipe.
Et tout un symbole, mercredi soir, c'est Jackie Gronin qui a offert la qualification pour la finale. Elle porte le numéro 14, comme le regrettait Johan Cruyff en son temps. Le légendaire attaquant est une icône, mais surtout un modèle pour les joueuses qui s'en inspirent. Il y a l'institution Ajax Amsterdam et la sélection nationale chez les garçons. Il y a maintenant l'équipe féminine qui va dimanche se mesurer à son modèle, les redoutables américaines. Le fossé reste énorme avec les États-Unis, beaucoup plus expérimentés. Et c'est donc un nouvel exploit que l'équipe orange devra réaliser. Lyon, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Et mini lot de consolation, il y aura une Française. En finale, c'est la Française Stéphanie Frappard qui sera au sifflet pour cette finale, donc demain à 17h.
Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont d'ores et déjà les grandes favorites de la finale demain ?
En tout cas, les Américaines font tout comme, sérénité et sérieux. Voilà ce qui ressort de cette équipe au parcours sans obstacle jusqu'à présent. Écoutez la star de l'équipe, Alex Morgan.
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait sur le terrain. On se sent en confiance en équipe et individuellement dans nos rôles. C'est ce que notre entraîneur nous demande principalement. Je pense que nous sommes dans la bonne voie et nous voulons ramener la coupe.
Alex Morgan, ex-joueuse de Lyon avec Cyril de la Morinerie. La petite finale se joue à 17h. Angleterre-Suède, c'est également à Lyon.
En tout cas, si on dresse le bilan à la Fédération française de football, on est ravis.
Hormis l'élimination prématurée des Bleus, évidemment, le pari est réussi. À la FIFA également, on est ravis. Écoutez d'ailleurs son président, Gianni Infantino.
C'est grâce à vous, grâce aux Français, que cette Coupe du Monde est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Une Coupe du Monde magnifique qui, en fait, a fait vibrer le monde entier. Quand on voit cette Coupe du Monde, quand on voit les stades pleins, quand on voit les familles, quand on voit combien de garçons et de filles viennent voir ces matchs, quand on voit le fair play sur le terrain. Une fille, quand elle prend un coup, elle se lève, elle joue. Hein. Un mec, quand il prend un coup, il reste par terre pendant un bon moment, l'entraîneur qui gueule, le public qui rentre sur le terrain. Voilà, il faut quand même prendre exemple, je pense aussi, pour les hommes de certaines choses de cette Coupe du Monde et j'en suis très très content.
Gianni Infantino qui est favorable par ailleurs à un élargissement de cette Coupe du Monde féminine de 24 à 32 équipes dès la prochaine en 2023.
Et quant à Noël Le Graët, lui, il est favorable à une Coupe du Monde féminine tous les 2 ans,
oui.
A-t-il dit,
oui, il faudra caser l'Euro aussi, on ne sait pas comment
faut
on va
mettre
faire.
L'Euro, le Mondial des hommes, enfin, ça va être un petit peu encombré. Merci beaucoup en tout cas Lénaïque Monnier, c'était le premier journal de la tranche. Lénaïque revient à 7h.